Canal Sud 92.2, c'était la Muchacha. Et on est en compagnie de Pierre dans le studio de Canal pour parler un petit peu d'une série d'événements, en gros d'une semaine anti-nucléaire qui se tiendra à Toulouse, mais aussi dans d'autres villes aux alentours. Ça commence lundi 21 mars, ça prend fin le 28 mars prochain. Et du coup, c'est un ensemble de projections, infokiosques, discussions, arpentages, lectures, jeux, chorales, cantine, expo, autour justement du thème des luttes anti-nucléaires, vraiment au sens large, avec des invités, des collectifs, des réalisateurs, réalisatrices, bref, plein de gens qui sont venus, qui ne sont pas tous de Toulouse, qui sont venus un petit peu, alors je ne crois pas que ce soit vraiment international, hein, si je ne me trompe pas, mais en gros de plusieurs coins de France, pour venir... nous éduquer, on va dire, ou justement venir partager et discuter sur les enjeux liés au nucléaire et surtout aux luttes anti-nucléaires. Salut à toi, Pierre.
Salut.
Merci beaucoup d'être là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu éplucher ce programme ensemble et puis tu nous parleras un petit peu, on se penchera un petit peu plus sur les points sur lesquels toi, tu t'es plus calé pour comprendre un petit peu, enfin, je sais pas, pour vous donner envie de venir et de vous intéresser à cette question qui est assez importante. Ouais, j'ai des formules très percutantes, je sais. Alors, du coup, ça se déroule sur... Alors, est-ce que déjà, tu peux nous raconter un petit peu la démarche qui a poussé les gens à organiser, à venir organiser cette semaine-là? C'est quoi un petit peu la philosophie de cet événement?
Alors, du coup, la semaine dont on parle, c'est une semaine qui est intitulée « Atomic Detox ». Sous-titré une semaine de rencontres anti-nucléaires contre le nucléaire ne sauvera pas le climat, voilà, c'est ça. Et elle se passera du 21 au 27 mars prochain dans différents lieux de Toulouse. Un petit paquet, hein, y a pas mal de monde qui sont mobilisés sur cette question-là. En fait, cette semaine, elle a été pensée dans le cadre de la tournée des Scotcheuses. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un
rapidement. C'est un parler, mais je veux bien, ouais.
Un collectif qui fait des films, mais qui a la particularité de faire des films en Super 8 d'abord.
Donc, c'est-à-dire quoi la Super 8? C'est une vieille caméra un petit peu vintage.
Ouais, voilà, avec des bobines, des pellicules et pas de son. Ce qui fait que l'enregistrement du son est généralement fait à côté. Et du coup, pour les projections, y a deux systèmes, quoi. Il y a le système vidéo, et des fois il y a du son, des fois il y a de la musique par-dessus. Ce qui demande une certaine logistique. Et deuxième particularité, c'est un collectif qui fait tout collectivement. Donc on parle d'écriture collective pour le scénario, on parle de tournage collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui sont... caméraman professionnel ou même amateur, mais qui font ça tout le temps, quoi. C'est la caméra, elle tourne, les rôles des... Enfin, les acteurs sont pas... Pardon ?
Non, je dis c'est le cas de le dire. Que la caméra tourne, mais...
Exactement, ouais. Et voilà, du coup, c'est des projets qui prennent extrêmement longtemps.
Et du coup, les Scotcheuses, c'est donc un collectif de meufs qui réalisent des films autour de la question du nucléaire ou qui... Ou pas spécialement?
Non, pas spécialement. Mec et meuf.
Ouais.
Et c'est des gens d'un petit peu partout en France, quoi. Genre, leur premier projet, c'était, je crois, pas dire de bêtises, là aujourd'hui, c'est le troisième. Là, c'est la tournée du troisième film. Les deux premiers, c'était des films qui s'étaient faits sur. Qui avaient été tournés sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a déjà un moment, hein, je pense que le collectif, il a plus de 10 ans, facile. Et le dernier, qui a fait sa première projection il y a quelques mois, c'est un film qui était tourné en Meuse, à Bure et autour de Bure, et qui a nécessité 4 ans de travail.
Et qui s'appelle Après les nuages.
Et qui s'appelle Après les nuages.
Et qui sera diffusé à Lugan, à 19h, mardi 22 mars, au Négral.
C'est en Aveyron.
D'accord, ok.
Et il va être diffusé, du coup, vu que cette semaine s'inscrit dans ce cadre-là, il va être diffusé à plusieurs endroits, notamment à Toulouse, en Aveyron
Et à
et
Rabastens,
à
le
Rabastens,
jeudi 24 mars, au banc sonore.
c'est ça, et également à Foix le 28 mars, du coup le lundi suivant, à la Mauvaise Foi.
D'accord. Toi, tu l'as vu ce film?
Ouais, je l'ai vu, ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être aux auditeurs, auditrices pour leur donner envie de venir ou de raconter un petit peu un petit peu de quoi il s'agit en fait?
Eh ben, je crois que moi, il m'avait été présenté comme un film du coup anti-nuque, vu qu'il est à Bure, mais dystopique. Et sans spoiler, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. Genre, c'est vraiment très très loin de ce à quoi moi je m'attendais. Et voilà, y a un petit cachet rétro-futuriste, quoi. Genre, comme dans les films des années 70 qui voulaient faire des films de science-fiction et qui étaient un peu, enfin, qui aujourd'hui, quand on les regarde, sont un peu décalés. Par rapport à ce que le futur d'aujourd'hui est. Et moi, je retrouve un peu cette
D'accord.
teinte-là dans ce film-là.
Mais du coup, en gros, ça vient explorer une forme un peu d'esthétique, un peu post-apocalyptique, quelque chose comme ça,
Voilà,
de ce que.
mais vieillotte, quoi.
D'accord,
Mais
ok.
qui a du cachet, quoi. Mais
Ok, ça donne envie. Il dure combien de temps le film,
il
tu
dure
sais?
40 minutes.
Ok.
Voilà, à Toulouse, il sera diffusé, donc on l'a dit, vendredi au Poum.
34 rue Brouard-Dale, à côté de la place
Exactement.
Héraclès.
Et avant ça, vendredi, il y aura une cantine. Et juste avant la cantine, il y aura un petit infotour pour expliquer un petit peu ce qui se passe à Bure ces derniers temps. Voilà.
Très bien. Alors peut-être on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chiant de dérouler le programme, mais quand même, on a bien envie que cette semaine-là, elle vive et qu'elle fasse venir du monde et des gens aussi, des curieux curieuses, quoi. Ça commence lundi au local Camarade à 19h30, là, lundi 21, au local Camarade au 54 boulevard Déodat Sévrac, avec la projection d'un film qui s'appelle L'Explosion. C'est un film de 2007 et qui nous parle de lutte contre la centrale nucléaire de Chooz
Chou.
de Chooz dans les Ardennes. Et ce sera suivi d'une discussion. Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors ouais, je l'ai vu il y a un moment. L'intérêt de cette lutte, c'est qu'elle intervient dans une zone qui est en proie à la désindustrialisation à cette période-là. Et du coup, il y a comme un double enjeu, à la fois pour les ouvriers qui travaillent dans les aciéries, si je ne dis pas de bêtises, hein. Et à la fois pour les habitants qui se battent contre l'installation de la centrale de Chooz. Et en fait, il y a une tension à cet endroit-là avec lequel le gouvernement de l'époque va vraiment réussir à bien jouer, quoi.
Ça se passe quand?
Ça se passe en... C'est une bonne question.
Une petite fourchette.
Franchement,
Mais
je
plutôt
dirais,
années 2000.
je dirais début 80.
Ok.
Ouais. Et du coup, le gouvernement va plus ou moins réussir à jouer dans mes souvenirs les ouvriers contre les habitants. Enfin, il y a une espèce bah, grosso modo, certains ouvriers va y avoir des retraites anticipées très importantes pour pouvoir définitivement fermer les aciéries.
Attends,
Et
les aciéries, c'est
les
quoi?
aciéries, c'est là où on fait de l'acier.
Ah ouais, bah
Voilà.
voilà,
Et
ouais, c'est assez
voilà, dans le
évident,
nord-est de la
tu le
France,
dis.
la désindustrialisation a été assez importante à ce moment-là, et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits encore qui sont assez marqués par cette époque-là. Enfin, en tout cas, par ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, ça a été un petit peu un deal de dire, ok, bah, genre, il y en a certains, on va fermer l'usine, mais il y en a certains qui vont retrouver du travail dans le nucléaire, puisqu'on va construire une centrale. Et du coup, il y a eu un deal. Enfin, avec une certaine partie des ouvriers et des syndicats, de dire, ok, bah, on ferme les usines, mais par contre, on ouvre une centrale et du coup, vous allez avoir quand même du travail. Bon, de par ailleurs, je crois que c'est le moment où le gouvernement a mis très certainement le plus de thunes pour, entre guillemets, acheter le silence des ouvriers qui vont partir en pré-retraite. Genre, il a payé des centaines de pré-retraites à... Enfin, grosso modo, des salaires pendant 8 ans, 10 ans, 12 ans à des ouvriers pour leur pré-retraite, quoi. Et c'était un montant vraiment faramineux. Je suis pas sûr que c'est déjà existé ce genre de plans sociaux.
D'accord, donc du coup, là, ce dont tu parles, c'est donc, ça parle, enfin, le film qui revient sur cette période-là s'appelle L'Explosion et c'est lundi prochain à 19h30, quoi.
Voilà, exactement. Et si vous avez jamais vu des blindés de l'armée française qui essayent de faire des dérapages sur des hippies, vous verrez ça dans ce film.
Ok, et eh ben, très bien. Je ne sais pas comment rebondir, mais voilà. Donc cette semaine se poursuit, on va peut-être un peu plus se concentrer sur ce qui se passe à Toulouse, hein, désolé, mais, mais voilà, je prêche ma paroisse. Alors, on continue, donc mardi 22 mars à Toulouse, de 16h à 19h, au Placard Brûle, il y aura une discussion intitulée « Rien que moins que... » contre le nucléaire et son monde. Et en fait, ça se passe à partir de... En gros, ce sera des lectures de brochures qui ont été choisies. La mixité proposée, c'est 100 mecs cisgenres hétérosexuels, 100 mecs 6-7 selon l'expression consacrée. Voilà, du coup, vous pouvez contacter le Placard Brûle pour plus d'infos si vous avez envie de lire des brochures à plusieurs. Toujours mardi, il y aura un atelier. Là, cette fois-ci, ça se passe au local Picmille, dans le quartier Saint-Cyprien, 19h30. Et là, du coup, c'est un atelier qui s'appelle l'atelier de l'Antémonde et c'est proposé par le collectif La Chose. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de un petit peu toi ce que tu sais de ce collectif La Chose, sur quoi ils travaillent, voilà, peut-être de manière un petit peu globale, quoi. Et peut-être si tu as quelques billes sur en quoi consiste cet atelier.
Oui, alors tout d'abord le collectif La Chose, c'est un collectif qui n'est pas très vieux, hein, je pense que c'est d'avoir moins de 2 ans, et qui a la particularité de rassembler des personnes d'horizons assez divers, et qui ont tous en commun de se poser des questions, non pas forcément sur le nucléaire en tant que tel, ou sur d'autres questions énergétiques comme l'éolien, comme les gens de la Masada par exemple, mais de se poser la question de l'énergie électrique en tant que telle. Je crois que La Chose, le sous-titre, c'est la coordination contre l'ordre électrique. Et on a pu les voir notamment cet été à différents endroits, comme au camp des Rayonnantes à Bure, à la Fête du Vent à la Masada, ou encore à la Grange de Montabeau, en Normandie. Et il propose un certain nombre d'ateliers, et ce qu'il propose ce mardi à 19h30, 6 rue Picmille, c'est une version des ateliers de l'Antémonde. Alors les ateliers de l'Antémonde, c'est un type d'atelier qui est porté par un autre collectif originellement. C'est le collectif qui avait écrit le livre « Bâtir aussi », qui est une espèce de... Tu vois ce que c'est ?
De livres, de séries de nouvelles d'anticipation qui explorent les possibilités d'un monde bon, post-capitalisme, en tout cas post-rupture avec le capitalisme énergétique tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui trace des pistes en fait, de ce que ça pourrait être.
Exactement. Voilà. Et ces ateliers, du coup, c'est des ateliers d'écriture collectif, quoi.
Ouais. Et de ce que on m'a dit, c'est assez cool. Mais par contre, c'est un peu calé, quoi. C'est un peu, ça se base sur une, comment dire, un peu sur une démarche un peu de recherche collective, en fait.
Ok. Et j'ai jamais participé, du coup, je pourrais pas en dire beaucoup plus.
Donc ça se passe à 19h30 au local Picmille mardi prochain. On poursuit sur ce programme, hein, de la semaine qui s'appelle Atomic Detox. On poursuit avec le mercredi 23 mars, puisque donc il y aura un arpentage au Chat Noir rue Antoine Puget à partir de 13h jusqu'à 16h30 du livre de la Parisienne Libérée qu'on va écouter juste après d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, elle faisait des petites vidéos rigolotes, enfin rigolotes et pas que, mais militantes aussi sur Mediapart, où elle et en fait, elle s'intéresse particulièrement aux luttes anti-nuc. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le nucléaire, c'est fini. Je ne sais pas si tu l'as lu, si tu veux en dire quelques mots.
Alors, pour le coup, je ne l'ai pas lu. Mais toutes les personnes qui l'ont lu en disent vraiment beaucoup de bien. C'est un truc qui se lit apparemment très bien. Et qui est assez. qui est assez claire, même pour une, enfin, pour des gens qui connaissent pas du tout le sujet. Et il y a tout un chapitre qu'elle a fait notamment sur, sur les résistances, et elle a choisi comme sujet un sujet qui est pas très connu, qui est une centrale, la lutte contre une centrale, l'installation, la construction d'une centrale nucléaire en Espagne, dans le Pays basque espagnol. Et il n'y avait pas vraiment de travail historique qui avait été fait, ou en tout cas pas depuis longtemps, quoi. C'est une histoire qui est assez peu connue, et qui lie tout un tas de diversité des tactiques et de pratiques, et ce qui fait qu'au final, cette centrale nucléaire n'est jamais rentrée
en fonctionnement,
quoi. Voilà.
On écoute La Parisienne libérée tout de suite.
À la une de l'actualité régionale, le nucléaire, filière d'avenir, disait Arnaud Montebourg. Il est venu aujourd'hui avec Delphine Bateau présider le comité stratégique de la filière à Montbard. La création d'un fonds de soutien aux petits acteurs du nucléaire a été annoncée.
L'esprit de la politique des filières, c'est de rassembler les entreprises autour de projets communs. Les grandes entreprises, les petites, les moyennes, et de les faire travailler ensemble dans un esprit de solidarité patriotique. Et nous construisons, pierre après pierre, une équipe de France du nucléaire.
Certains préfèrent les éoliennes, le photovoltaïque, font du biogaz et s'offrent même des barrages hydrauliques. Ces doux rêveurs de la transition sont tous des fanatiques. Nous, on respecte la tradition 100% atomique. On a racheté une vieille centrale avec les copains. On l'a tapée, c'était génial, on a tout repeint. Elle produit assez d'énergie pour chauffer un immeuble. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. Y a pas eu besoin d'ingénieurs, on a fait tous les plans. Se bricoler un réacteur, c'est facile finalement. Le cœur, la cuve et puis l'enceinte, un peu de vapeur d'eau. De l'extérieur, une fois repeinte, on dirait un château. On a racheté une vieille centrale avec les copains. On l'a retapé, c'était génial, on a tout repeint. Elle produit assez d'énergie pour chauffer un immeuble. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. On trouve l'uranium sur le net ou bien dans le Limousin. Le yellow cake, on a la recette et ça coûte presque rien. Pour les déchets, suffit de prévoir d'avance quelques bidons. On les refroidit dans la baignoire et on les stocke à la maison. Nucléaire Social Club, tarara, Nucléaire Social Club, tarara, Nucléaire Social Club, tarara, Nucléaire Social Club. Tout ça grâce au partenariat entre le FSI, Alstom, EDF, Areva, Eiffage et puis Vinci. Ils ont adoré notre idée, ils étaient tout émus. Le PR de proximité, ça leur a vachement plu. On a racheté une vieille centrale avec les copains. On l'a retapé, c'était génial, on a tout repeint. Elle produit assez d'énergie pour chauffer un immeuble. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. C'est une PM entre amis, le Nucléaire Social Club. Mm-hmm.
Retour dans le magazine de Canal Su 92.2 et on parle de la semaine, ça n'a pas du tout la voix aujourd'hui, on parle de la semaine anti-nucléaire qui se tiendra du 21 au 28 mars prochain, à savoir la semaine prochaine à Toulouse et alentour. On poursuit sur la programmation, là on vient d'écouter la Parisienne Libérée qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le nucléaire c'est fini et qui sera pas là, qui sera complètement absente de cet arpentage qui vous est proposé au Chat Noir, 33 rue Antoine Puget, dans le quartier des Minimes, mercredi prochain. Il y a aussi à 18h30 à l'itinéraire bis un atelier sur l'écoféminisme auquel vous pouvez vous inscrire sur le mail général des rencontres qui s'appelle atomique avec un K detox at riseup.net. Quelques mots à dire sur cet atelier écoféministe?
Non, absolument pas. Je ne connais pas du tout le contenu de l'atelier.
Très bien, on peut passer à l'événement juste après, à 19h30, au local Pygmille, toujours, avec la projection du film At Home.
Alors oui, At Home, c'est un documentaire sur les essais nucléaires français en Algérie, puisqu'avant d'aller utiliser ces bombes en Polynésie, la France les a d'abord testées en Algérie en 1960. Alors je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup du film parce que je ne l'ai pas vu, mais par contre je peux vous en faire une petite description, vous lire le synopsis. Plus de 50 ans après la fin de la guerre, un cinéaste et un photographe issus des deux camps du conflit et enfants héritiers de l'histoire coloniale franco-algérienne nous ramènent en 1962 en plein Sahara algérien. D'une zone désertique irradiée au faubourg d'Alger, ils suivent le parcours d'une explosion nucléaire expérimentale. De l'essai à l'accident, des retombées environnementales au recyclage des lieux du passé, le point de départ est historique, mais l'histoire contée nous rattrape au présent et vient nous chercher là où nous sommes, at home, pour un face-à-face avec des retombées sans frontières. Voilà, alors je précise que ce film, il est projeté dans le cadre du Ciné-Club de Pygmille, qui a lieu toutes les semaines, tous les mercredis, au local de la rue Pygmille, à 19h30. Voilà, du coup, faut pas hésiter à y passer. Je précise aussi qu'en amont de cette projection, c'est pas encore sur le programme, mais ça y sera dans les jours qui viennent, il va y avoir un atelier, en fait une espèce de jeu collaboratif sur l'histoire du nucléaire et ses contestations. Voilà, donc c'est un atelier qui se fait à 5-10 personnes et qui permet en une heure et demie d'avoir un peu une vue, je dirais pas exhaustive, mais un peu large de ce que c'est que le nucléaire depuis les premières découvertes scientifiques à aujourd'hui, à 2022. Et ceci dans une grosse partie de ses aspects, autant coloniaux que scientifiques, que politiques, etc.
Très bien. Ouais, surtout dans un moment où... tout le discours, il y a tout un discours politique aussi sur l'indépendance énergétique de la France. C'est une formule qu'on entend et en fait, il y a juste besoin de se pencher un petit peu non seulement sur l'histoire, mais aussi voilà, sur l'économie du nucléaire, que ce soit en termes de pillage des ressources au Niger, mais aussi de toute l'histoire en fait, des essais atomiques en Algérie, en Polynésie pour comprendre comment dire que déjà ça n'a aucune réalité économique de parler d'indépendance énergétique de la France, mais que ça
a une réalité dans la bouche de ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire que vu que la France a encore des intérêts dans certains pays africains, pour eux c'est une forme d'autonomie quoi, mais effectivement
colonialisme.
Et basé sur le colonialisme, oui, voilà. Exactement.
Du coup, si on poursuit cette semaine, le jeudi, là, je ne sais pas si vous avez lu ce livre Oubliez Fukushima, mais c'est un livre qui est vraiment majeur. C'est un livre qui a une nouvelle édition, là, mais qui était paru quelques années après la catastrophe nucléaire de Fukushima et qui recensait en fait un certain nombre de documents, d'articles, de lettres et qui documentait en fait la manière dont cette catastrophe nucléaire a été gérée, que ce soit... c'est assez incroyable et faut vraiment le lire, en fait. Par exemple, ils ont traduit en français les appels d'offres d'emploi qui ont été diffusés au Japon pour le nettoyage, justement, de la zone. Voilà, plus, on va dire, les réactions politiques des responsables, en fait, politiques face à la contestation, face... par exemple, dans les moments où ils ont été mis face à leur responsabilité par, que ce soit les familles des victimes ou alors les citoyens en général, ça raconte cette histoire-là. C'est une histoire qu'il faut connaître. Alors, j'ai l'habitude de dire, faut pas lire plus de 2 bouquins sur le nucléaire par an, sinon c'est pas possible pour le moral. Mais en tout cas, ce livre a fait l'objet d'une réédition, il me semble. C'est toujours aux éditions du Bout de la Ville. Et voilà, je vous le recommande vraiment, ce livre. Et c'est un livre qui sera présenté donc au kiosque au 36 rue Daniel Casanova, jeudi 24 mars à 18h. Et à la chapelle, du coup, aussi à 20h. Donc, ce sera suivi par la projection du film Notre mère tuera proprement. Non, pas du tout. Notre terre mourra proprement. Et, je dis ça en rigolant. Le titre du film, c'est Notre terre mourra proprement. Ça a été réalisé par un collectif de réalisateurs qui s'appelle Le Comité Central. C'est un film qui date de cette année. Et ce qui est chouette, c'est que l'un des réalisateurs, réalisatrices du film, viendra présenter justement ce film ce même jour-là dans le magazine à 13h, jeudi 24, la semaine prochaine, pour nous raconter un petit peu la démarche dans la réalisation du film. Voilà, pour vous inviter à aller le voir. Toi, tu l'as vu ?
Ouais, c'est un film qui est assez important pour ceux qui s'intéressent à la question de l'enfouissement des déchets et notamment des personnes qui ces dernières années sont mobilisées autour de la question de Bure, parce qu'en fait ces personnes ont fait un travail de recherche historique de tous les sites d'enfouissement qu'il y a eu en fait entre 1980 et 1994, du coup, enfin même pas, genre même plus loin que ça, en fait avant la question de Bure et que l'enfouissement des déchets soit décidé, ou Bure soit décidé comme site d'enfouissement, l'ANDRA, l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, qui a été créé en 79, a essayé d'aller à d'autres endroits, quoi. Et sauf qu'à cette époque-là, fin des années 70, le mouvement écologiste était encore très fort. La verve anti-nucléaire était encore là, et du coup, ils se sont fait dégager littéralement de dizaines et dizaines de villages et de coins de campagne, quoi.
Donc c'est l'histoire de plusieurs victoires, en fait.
Ouais, là on peut le dire, quoi. Et du coup, ils sont allés réinterroger les personnes qui parce qu'en fait l'ANDRA a agi par salve, quoi, genre d'abord dans les années 80 en 1980 dans 3-4 sites, ensuite dans d'autres sites à partir de 84, et à chaque fois les gens sont mobilisés. Il y a une énorme coordination nationale pour de solidarité entre ces différentes luttes et de mutualisation des moyens, et ils ont quand même réussi à tenir pendant ils ont tenu jusque là, quoi, hein, genre la preuve c'est que l'ANDRA en 91 a dû s'arrêter et dire ok, genre stop, on réfléchit, comment est-ce qu'on fait pour enfouir ces déchets, les populations ne nous laissent pas faire, et du coup il va falloir agir plus intelligemment.
C'était quoi les différents outils et stratégies de ces luttes dans les différents lieux? Est-ce que c'était toujours les mêmes modes d'action? Ouais, il y avait quoi c'était traversé par quoi comme mode d'action?
Je pense que c'était assez divers, mais en plus à cette époque, enfin, on parle pas de, ouais, c'est pas les années 2010, c'est pas les années 2020, quoi. Genre, on parle encore de moments où les manifestations elles sont massives en fait à ces époques-là. Hein. Genre, je reprends par exemple Cresmalville, la manifestation de Cresmalville contre Super Phoenix en 1977 où un militant Vital Michalon est décédé. On parle de 80 000 personnes. Aujourd'hui, 80 000 personnes, c'est la plus...
C'est ce qu'il y aura dans la rue samedi prochain pour la manif antiraciste, par exemple.
Oui, on peut espérer, mais en fait, c'est assez rare d'avoir des manifestations aussi grosses. Et à l'époque, c'était un peu normal, entre guillemets, quoi. Genre, enfin oui, il n'y avait pas du tout le même rapport au territoire. Je pense que l'État avait moins de prise sur les villes et les campagnes, et notamment les campagnes, quoi. Ça, c'est quelque chose qui apparaît même au-delà des luttes antinucléaires. Okay. Voilà, et du coup, ce sera une exclusivité puisque c'est la première projection de ce film-là en France, quoi.
Tout à fait.
En France et ailleurs, d'ailleurs.
Très bien, donc ça, c'est pour la journée de jeudi. Vendredi, au Poum, 34 rue Brouardel, à 17h, il y aura une réunion d'information autour... Alors, attendez, pardon. Il y aura Sortir du nucléaire, le collectif Sortir du nucléaire, qui propose information et lutte autour de l'usine Orano-Malvessie à Narbonne. Bon, on vous renvoie vers le programme et... Voilà, ensuite, ce sera suivi à 18h par un infotour sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, suivi d'un repas, jeu surprise, chant antinucléaire par la bien nommée Canaille du Midi. Et ce sera suivi par justement une projection du film dont on vous parlait depuis le début, là, par le collectif Les Scotcheuses, donc le film Après les nuages, donc cette fiction en Super 8 réalisée à Bure. Samedi 26 à 16h à la Turbine, aux 3 rue des Cheminots, on retrouvera le collectif La Chose, hein, ceux qui organisent l'atelier de l'Antémonde à Piquemille le mardi. Et cette fois-ci, ce sera en gros le collectif La Chose qui travaille notamment. Donc du coup, c'est pas seulement sur le nucléaire, mais en fait sur tout le système de l'électricité, en fait, de cette économie de l'électricité. Le collectif La Chose se présentera et proposera une discussion sur la récupération du discours anti-éolien par l'extrême droite qui a permis notamment, nous dit-on, à Macron d'annoncer la relance du nucléaire plus sereinement. Ça serait chouette s'il pouvait venir en parler dans le magazine, mais en ce moment, j'ai du mal à contacter mes invités. Du coup, je vous garantis rien. À samedi, toujours, ce sera suivi par une soirée au CRAS, au 39 rue Gamelin. Et du coup, ce sera à 17h, on vous propose un jeu collaboratif qui s'appelle Timeline sur l'histoire du nucléaire et de ses contestations. Ah ouais, en fait, c'est un timeline nucléaire.
Voilà, exactement.
Est-ce que les auditeurs, auditrices connaissent Timeline, même si c'est très connu, c'est un super jeu.
Ouais, Timeline,
on peut étaler sa culture en veux-tu, en voilà.
Ah oui, un jeu pour étaler sa culture.
Timeline, c'est un peu un jeu pour étaler sa culture.
Ah ouais, je sais pas.
Que Puissance 4, par exemple.
Oui, effectivement. Mais ouais, il se trouve qu'en fait, il y a des animateurs d'éducation populaire il y a 2-3 ans qui se sont rendus compte que le jeu Timeline, qui est un jeu qui est commercialisé, quoi. Enfin, qu'un jeu de société qu'on peut acheter.
C'était
quoi.
Un jeu islamo-gauchiste.
Pas tant, mais que c'était un super moyen d'éducation populaire. Mm-mm. Et du coup, ils se sont mis à faire des timelines sur des thèmes, notamment c'est utilisé à la Confédération paysanne pour faire de la formation politique. Et voilà, il y a un timeline sur le droit des femmes aussi qui a l'air assez stylé s'il faut chercher sur internet, quoi.
Il y a aussi un timeline sur l'exploitation dans l'associatif qui apparaîtra le mois prochain
avec une carte Clélia.
Oui, par exemple. Ou pas.
Ou pas.
Alors, du coup, ce jeu qui a l'air vraiment super. Je me demande par contre s'il y a plein de monde, comment. J'espère que vous avez fait des. Enfin, il y a des cartes immenses du coup pour jouer ou.
Ouais.
Ou il y a plusieurs jeux en fait.
Elles sont assez grosses, oui.
On est en train de se perdre là, clairement.
Mais du coup, c'est le même atelier que le mercredi avant la projection à Picmill, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Ok.
En fait, on le fait deux fois.
Ok, super, très bien. Donc ça, c'est au CRAS, samedi, et suivi à 20h d'une projection d'un film qui s'appelle Enquête d'hostilité publique, suivi d'une discussion sur les luttes d'hier et d'aujourd'hui contre la centrale nucléaire de Golfech dans le Gers ? Non, dans le Tarn-et-Garonne ? Oh là là !
Le nom du département, je ne l'ai pas.
C'est laborieux aujourd'hui. Soutenez-nous. Parce qu'en fait, il y a quand même eu... Alors, pareil, y a quand même une histoire de lutte, notamment à Toulouse et alentour, et de mobilisation anti-nucléaire depuis la fin des années 80, en fait, avec voilà, toute une histoire de lutte et de résistance.
Enfin, des années 70 même.
Ouais. Ok. Non, ouais, bah, je savais pas. Et donc, du coup, ça, si ça vous intéresse de connaître justement cette histoire-là, rendez-vous au CRAS samedi 26 mars pour justement mater ce film Enquête d'hostilité publique sur les luttes contre les mobilisations contre la centrale nucléaire Golfech. Dimanche 27 mars, à la Chapelle, une après-midi débat. Sur s'armer contre le discours pro-nucléaire en deux parties. Ça commence par un arpentage. Donc du coup, arpentage, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une méthode d'éduc-pop dans laquelle on divise un livre entre plusieurs parties et où chacune lit sa partie et après ça se poursuit par un échange justement autour de ça. C'est bien ça, tu confirmes? Voilà, donc ça c'est un arpentage. Donc ce sera... on nous dit pas l'arpentage se fera autour de quel ouvrage se fera l'arpentage, mais bon, en gros, il y aura un débat et l'idée c'est de construire collectivement une discussion sur comment est-ce qu'on se défend contre justement ce discours pro-nucléaire qui est quand même, je sais pas s'il est plus fort que jamais, mais en tout cas, il est bien vivant, quoi. Voilà, et puis lundi 28 mars, dernière soirée en tout cas, avec justement toujours la projection de ce film Après les nuages, à foi cette fois-ci. Voilà pour ce programme-là. Et on fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Tell me how did you feel when you were not the winner, when you were not the winner, when you
I'm
chers auditeurs, chères auditrices, j'ai envie de vous dire, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et aujourd'hui, c'est un jour compliqué.
Dès la fin de l'hiver, la forêt s'anime.
C'est donc la raison pour laquelle je vais vous diffuser un petit extrait d'un vinyle qui s'appelle Les Oiseaux d'Europe. Ça vous permettra donc de vous détendre et de vous connecter un petit peu. Avant qu'on se retrouve dans quelques minutes pour annoncer la manif antiraciste Solidarité de samedi et d'écouter une conférence de Saïd Bouamama.
Que serait la forêt sans les voix du coucou et du loriot qui nous annoncent l'arrivée du printemps ? Mais le rouge-gorge, lui, chantait fièrement depuis déjà plusieurs semaines. Il est intarissable.
Musique douce, musique d'ambiance, tourterelle des bois et mésange charbonnière entament un duo. C'est du sommet d'un arbre que descendent les longues modulations d'un pouillou fitis. Vigoureuses et sonores sont les trilles du pinson. Une buse plane au-dessus des grands arbres et jette son cri plaintif. La petite mésange bleue ne se tait pas pour autant. Elle sait bien qu'elle n'a rien à craindre du grand rapace qui cherche quelques rongeurs. Plus loin, la forêt s'épaissit, et ce sont les geais et le pivert qui mènent grand tapage. Mais la nuit tombée, des voix inquiétantes remplacent les chants mélodieux. Dans ce petit bosquet, habité par une famille de chouettes hulottes, les jeunes s'excitent au retour des parents qui ramènent sans doute une proie intéressante. Dans la plaine, les voix nocturnes sont plus douces. La chouette chevêche n'est-elle pas quelque peu nostalgique ? Et la voix du hibou petit duc ne résonne-t-elle pas merveilleusement au milieu des rochers ?
Je vous propose d'écouter la deuxième partie de ce CD. C'est parti.
La plaine est le domaine des alouettes. Les unes chantent en vol, telles ce coche vie dont l'inspiration semblait inépuisable. D'autres, comme l'alouette Lulu, préfèrent se percher sur un arbre. Se confondant avec la couleur de la terre, les perdrix grises, qui rappellent, restent invisibles, mais sont toutes proches. Plus mélodieux est l'appel répété de Ludiknem, qui s'envole en chantant, et sa voix se perd lentement dans le silence des grandes étendues. Gais et enjoués, les chardonnerets aiment les grands arbres qui bordent les ruisseaux. rossignol est aussi attiré par l'eau qui coule vers l'étang. Il reste caché au creux du buisson, d'où émane ce chant si réputé. Au bord de l'étang, dans les roseaux, ce sont les trilles claires du râle d'eau. Un autre lui répond par ses grognements grotesques, auxquels il doit sans doute son nom. Sur l'eau, ces rires aigus sont les cris des grèbes castagneux qui se poursuivent. Au-dessus d'eux, dans les arbres, les aigrettes garzettes ont établi leur nid. Elles conversent calmement à leur manière. Quelques mois plus tôt, d'autres chanteurs de
passage. De retour dans le magazine de Canal Sud et on est en ligne avec Solène. Salut Solène.
Salut.
Merci d'avoir appelé. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, il y a une grosse manif samedi contre les violences d'État, les violences racistes. Ça vient clôturer plusieurs mois de campagne antiracisme et solidarité. Et il y a plusieurs rendez-vous. Du coup, bon, l'idée, c'est de faire une grosse manif qui part d'Ampalo à 14h samedi, avec différents collectifs, différents cortèges. Voilà, ce qui sera suivi d'un rassemblement contre l'extrême droite à 18h.
Alors, pour revenir juste sur la manifestation de samedi, donc c'est, comme tu disais, à 14h à Ampalo, on fait partir cette manifestation du quartier Ampalo, parce que c'est un quartier où, peut-être que tout le monde le sait déjà, mais il y a beaucoup de contrôles policiers, il y a beaucoup de contrôles racistes dans ce quartier. Et du coup, l'objectif, c'est de repartir de l'endroit où on a fait le tournoi de foot. On a organisé le tournoi de foot antiraciste et solidaire qui a eu lieu dans le quartier d'Ampalo il y a 3 semaines et il y a 1 mois maintenant. Et d'aller vers la place Arnaud Bernard. Donc ça fait une grande manifestation, mais à la hauteur de l'enjeu. Et juste pour rappeler, cette manifestation donc du 19 mars, elle est à l'intersection de 2 dates internationales, à la fois la journée internationale de lutte contre le racisme et la journée internationale de lutte contre les violences policières. Donc le titre de la manifestation qui a lieu à la fois à Paris et à Toulouse, c'est « Contre le racisme et les violences policières et pénitentiaires ». Et pour rappel aussi, cette manifestation elle aura lieu dans plusieurs capitales du monde, donc à Berlin, à Johannesburg, à New York, à Montréal, à Londres, à Athènes, et j'en passe. Voilà, du coup, cette manifestation, elle se terminera à Arnaud Bernard avant le rassemblement contre le parti Reconquête.
C'est ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas la liste exhaustive de tous les cortèges et collectifs qui participent, mais il y a notamment le comité Vérité et Justice 31. Il y aura un cortège en non-mixité personnes racisées. Il y aura un pink bloc aussi.
C'est ça. Alors, pour les deux premiers cortèges que tu as cités, c'est tout à fait ça, avec le soutien de l'action antifasciste toulousaine. Puis il y aura aussi un cortège syndical, un cortège féministe et LGBTI. donc le Pink Bloc, qui est organisé par l'association Trans Clarté, pour lutter contre la récupération des luttes féministes et queer à des fins racistes et notamment islamophobes. Et puis, les partis politiques sont aussi conviés à venir, les associations évidemment aussi. Et je crois que j'oublie un cortège, mais il y aura aussi le cortège d'autonomie et des habitants du bâtiment des Tourelles, donc une centaine d'habitants jeunes mineurs isolés.
Qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, propose une soirée de soutien après donc ce même samedi, là, soir à la chapelle.
Tout à fait, c'est la fin de la journée, donc la journée est très complète avec la manifestation, puis le rassemblement à 18h30 appelé par la coordination antifasciste Toulouse et environ, dont fait partie le collectif populaire contre l'extrême droite et d'autres collectifs toulousains et de la région. Et donc, pourquoi il y a ce rassemblement? Parce qu'il y a un meeting du parti Reconquête. Alors, on peut se satisfaire du fait que Zemmour ne tiendra pas de meeting à Toulouse, parce que selon leur équipe de campagne, c'est trop compliqué d'organiser une venue de Zemmour à Toulouse, étant donné la couleur politique de la ville, alors pas forcément de la mairie, mais de la ville historiquement antifasciste. Et du coup, ils ont décidé de pas faire venir Zemmour. Par contre, ils s'organisent quand même au palais, pas au palais des congrès, mais dans une salle à côté de Jeanne d'Arc, un meeting où il y a 2000 places et ils attendent 1200 personnes.
Ah ouais.
Donc il faut qu'on soit au rendez-vous à 18h30.
Le meeting qui se tiendrait samedi
à 400 mètres. Ce samedi, oui, à 400 mètres de la place Arnaud Bernard. Donc c'est à la fois une insulte pour Toulouse et aussi une insulte particulièrement pour ce quartier aussi qui subit tout le temps des contrôles d'identité raciste et une occupation policière quasi permanente. Donc voilà, et on a toute notre solidarité en tant que campagne antiracisme et solidarité avec ce rassemblement. Et puis effectivement, juste après, la soirée de soutien à Autonomie et aux habitants des Tourelles à La Chapelle. Donc La Chapelle qui se trouve 36 rue Casanova à Arnaud-Bernard.
Tout à fait. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi en tout cas pour cette présentation.
Avec plaisir.
À bientôt.
À très bientôt.
Salut.